bienvenue à nos auditeurs sur Radio Grand Ciel. Voici à présent l'émission Personnages insolites, préparée par Christina Fauta,
avec Elisabeth Couget et notre ingénieur du son Simon Martin. Notre personnage d'aujourd'hui a joué un rôle très insolite pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'acheva, comme on le sait, dans une totale débâcle pour l'Allemagne.
Pendant la guerre, les armées allemandes occupèrent la France, la Belgique, la Hollande, le Danemark et la Norvège, la Yougoslavie, la Pologne et une bonne partie de la Russie.
Et bien sûr l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Dans tous ces pays, Heinrich Himmler avait une autorité absolue sur la Gestapo, les SS, les camps de concentration. Il avait pour fonction de surveiller, traquer, arrêter, torturer, exécuter des millions de personnes.
Et au-dessus de lui, un seul chef, Hitler.
Un homme de 1940 à 1945, a réussi à sauver des hommes, à arracher des victimes à Himmler, à ce bourreau insensible et fanatique. Un homme seul, désarmé, le docteur Félix Kersten, notre personnage insolite d'aujourd'hui.
Une aventure à peine croyable, mais qui a été minutieusement vérifiée.
Le docteur Félix Kersten, on peut dire, versus Himmler. La famille de Kersten était de lointaine origine hollandaise, puis ses ancêtres s'étaient fixés à Göttingen. Lors de la visite de l'empereur Charles Quint en 1544, sa famille d'ailleurs reçut le droit de porter des armes, deux poutres surmontées d'un casque de chevalier et semées de lys de France, puis la famille s'installe dans le Brandebourg.
À la fin du 19e siècle, son père, Frédéric Kersten, qui était agronome, parti comme régisseur en pays baltes, alors faisant partie de la Russie des Tsars.
Il s'y établit et c'est là que naît notre personnage le 30 septembre 1898 à Tartu, dans l'Estonie d'aujourd'hui, donc partie intégrante de l'Empire russe alors. Il a un parrain de marque, l'ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg. Ce diplomate, passionné d'agriculture, s'était lié d'amitié avec Frédéric Kersten. À cette époque, le président de la République française s'appelle Félix Faure.
Et en son honneur, le parrain ambassadeur choisit pour son filleul le prénom de Félix.
Le petit Félix a une enfance choyée et heureuse, qui a tout le charme des gravures d'antan. Des maisons de bois, sauf dans la rue principale, la rue Nikolaïevskaya, du nom du tsar régnant Nicolas II, où les façades étaient de pierre. Le dimanche, à la belle saison, défilaient les équipages attelés de chevaux, et en hiver, les traîneaux recouverts de fourrure.
On patinait sur le lac, les samovars chantaient dès l'aube, et jusqu'à la nuit, la vie d'un enfant était d'une douceur enchantée.
À condition, bien sûr, qu'il appartint à la classe aisée et n'eût pas conscience de l'épouvantable misère du peuple. Mais son père trouve le petit Félix indolent et rêveur, peu assidu au travail, et décide de l'envoyer à 7 ans dans un pensionnat en Allemagne.
Alors Félix Kersten y termine péniblement ses études et la Première Guerre mondiale le surprend à l'âge de 16 ans. Loin de la Russie et loin des siens.
Séparé par des armées en bataille et des espaces immenses, ce fut pour lui l'heure de vérité. Jusque-là, ce grand garçon comprenait mal la nécessité de s'acharner au travail. L'instinct de conservation lui fit d'un seul coup adopter cette vertu, qui devint la règle de toute sa vie.
Et en 2 ans, il va obtenir son diplôme d'agronome. En 1917, il eut l'âge d'entrer dans l'armée, mais entre-temps, la révolution d'octobre est arrivée.
Révolution russe, oui. Les pays baltes avaient pris les armes pour leur indépendance. Les Finlandais vinrent au secours des Estoniens et Félix Kersten fut enrôlé comme officier finlandais pour se battre contre les Russes, devenant dès lors finlandais.
Des rhumatismes contractés dans les marais de Carélie l'obligèrent à se rendre à l'hôpital militaire de Helsinki et là, il eut le temps de songer à l'avenir et de faire le point.
Officier, rien ne lui plaisait dans la vie militaire. Agronome, il ne possédait pas de terre et ne voulait pas travailler chez les autres, comme son père. Pourquoi pas chirurgien ? Mais les études étaient longues et difficiles et il était sans ressources.
Le médecin-chef de l'hôpital lui conseilla alors l'étude du massage thérapeutique, une spécialité réputée en Finlande.
Les mains, les paumes de Félix Kersten étaient charnues et fortes, ses doigts larges et courts, une main idéale pour le massage. Félix se souvint alors que sa mère, de ses doigts agiles, guérissait les paysans, les ouvriers des environs, lorsqu'ils souffraient de foulures ou de douleurs musculaires. Et Kersten découvre alors, avec un étrange bonheur, le pouvoir qu'ont ses mains de rendre au corps souffrant des hommes la souplesse, la paix, la santé.
Alors, il obtient son diplôme en 1921 et part à Berlin pour faire sa technique. C'est là qu'il va faire la connaissance d'un vieux médecin tibétain.
Comme on dit, un lama. C'est le docteur Ko, tout petit, tout ridé, qui le forme à une technique de massage thérapeutique extrêmement puissante. Le docteur Ko l'initie aux sciences de guérison chinoise et tibétaine, et en particulier à l'art millénaire et subtil du massage. Ko prend Kersten sous son aile et lui enseigne tout ce qu'il sait, la précision, la souplesse, la nature et la source de la souffrance.
Kersten passa 3 années, de 1922 à 1925, aux côtés du docteur Ko, assistant à des cures étonnantes. Puis, le docteur Ko, ayant passé le relais de la science à son disciple, repartit au Tibet.
Kersten hérita de la clientèle considérable du docteur Ko. Et du jour au lendemain, sa vie matérielle fut transformée. Sa personnalité, sa simplicité, sa bonté, alliées à la technique asiatique et la science d'un vieux lama, lui attirèrent une clientèle fidèle et élogieuse. Sa renommée se répandit bientôt au-delà de l'Allemagne.
En 1928, la reine Wilhelmine de Hollande le fait appeler à la Haye, ou à la Haye, comme on veut, pour soigner son mari, le prince Henri. Kersten devient le médecin attitré de la cour des Pays-Bas.
Il décide alors de se fixer aux Pays-Bas, son pays d'élection, celui que sa famille avait quitté 5 siècles plus tôt. Il exerce à la Haye, mais aussi à Berlin, où il garde sa clientèle, et même à Rome, où il soigne, par exemple, le comte Ciano, le gendre de Mussolini.
Alors, parmi ses patients, Auguste Rosberg, un des industriels les plus puissants de l'Allemagne, par exemple.
Il le soigne et lui indique ses honoraires pour une cure complète, 5000 marks. Rosberg lui fait un chèque de 100 000 marks. Avec ce don inattendu, Kersten achète un domaine à 60 km de Berlin.
Nous sommes en 1931. Himmler commandait les SS. Et dès 1934, le nom de Himmler prend une résonance sinistre.
Heinrich Himmler est le grand inquisiteur, le grand bourreau du règne hitlérien, chef des légions SS, maître de la Gestapo. Quant à Kersten, il est citoyen finlandais. Son domicile principal est en Hollande. En 1938, il se marie. En 1939, naît son premier enfant. Il vit dans un cocon familial, fermant ses yeux et ses oreilles aux sombres présages.
Voilà, nous sommes en train de parler de Félix Kersten, notre personnage insolite d'aujourd'hui. Alors, nous sommes en 1939. Il a un généreux client, Rosberg, qui lui a fait une demande. Et Kersten qui va consentir. Il examinera Himmler, parce que c'est lui qui est malade.
Kersten, opposé, complètement opposé à l'idéologie nazie, se récrie d'abord. Puis, il se résout à accepter, se rendant aux arguments. C'est-à-dire...
Que va-t-il dire alors ?
Nous savons l'influence que vous prenez sur les malades quand vous les empêchez de souffrir. Et puis, votre devoir professionnel n'est-il pas de soulager n'importe qui ? Kersten va se rendre au siège de la Gestapo avec l'entrain d'un condamné qui se dirige vers la potence et fait même ses adieux à sa famille.
J'imagine qu'il n'était pas très rassuré. Alors, dans Berlin, un très grand immeuble au 8 de la rue Prince Albert où flottent les étendards à croix gammées. C'est le QG de Heinrich Himmler.
Le 10 mars 1939, Kersten entre dans ce qu'il surnomme l'antre de la bête. Il ignore encore que l'immeuble est plein de prisonniers, que dans les caves, la Gestapo procède à des interrogatoires sans merci. Himmler le convoque car il souffre de violentes douleurs d'estomac dont on lui a dit qu'il pourrait le guérir. Les mains de Kersten, formées par 3 années d'exercice et d'initiation lamaïque, puis 15 ans de pratique, se mettent en mouvement.
Et au bout d'une dizaine de minutes, Himmler n'a plus mal du tout. Mieux qu'aucun médicament, mieux que la morphine, dit-il.
Et Himmler de s'écrier reconnaissant, « Kersten, je vous fais inscrire tout de suite dans les SS comme colonel. » Kersten refuse. Mais Himmler lui demande de revenir chaque jour et fait savoir à la ronde, « Monsieur Kersten est le bienvenu ici. » Chaque matin, le miracle se renouvela. Himmler accueillait Kersten comme un magicien. Il appelle Kersten son Bouddha magique. Les mains de Kersten chassent la douleur et les horribles crampes.
Mais c'est un secret. Personne ne doit savoir que Himmler, ce personnage qui faisait peur à tout le monde, est malade et fragile.
Himmler rétabli, Kersten retourne en Hollande. Trois mois passent. Au début de l'été 1939, Himmler, à nouveau terrassé par des crises, rappelle Kersten. Himmler voyait chaque jour Hitler et lui vouait une véritable adoration. Hitler qui est sur le point de déchaîner une effroyable guerre. Au cours des séances de massage, Kersten lui parle. Il lui dit que la guerre est un attentat contre l'humanité.
Himmler n'avait qu'une réponse, et toujours la même. Le Führer a dit. Il est persuadé que la guerre sera finie en 10 jours.
La Pologne fut écrasée, mais la guerre continua. Avant de quitter Berlin, Kersten se rendit à la légation de Finlande, dont il était citoyen. Il leur raconta en détail ses rencontres avec Himmler et les confidences qu'il faisait à son médecin lorsqu'il souffrait. Réponse : vous devez traiter Himmler et nous renseigner, nous aider. C'est pour nous d'une importance capitale.
Donc fin avril 1940, Kersten soigne Himmler chaque matin et il apprend qu'il ne peut plus obtenir de visa pour quitter l'Allemagne. Il est donc coincé.
La légation de Finlande confirme « Vous avez l'âge d'être mobilisé comme officier et comme médecin, mais il est beaucoup plus utile que vous demeuriez auprès de Himmler. Là est votre devoir national, là votre poste véritable. » Malgré sa répugnance, il lui fallait rester.
Alors Kersten se trouve assujetti comme rivé à Himmler. C'est le poids d'une chaîne pesante. Hein.
Très, très pesante. Himmler lui demande de partir avec lui dans la zone des armées, dans son train spécial. En fait, bien sûr, c'est un ordre. La Hollande et la Belgique capitulent. Kersten espère encore dans la France. Pendant la guerre de 14, les Allemands s'étaient crus vainqueurs et il y avait eu la Marne et Verdun.
Mais la France capitule aussi.
Et les espoirs de Kersten s'effondrent. Ce qui représentait pour lui la culture la plus fine, l'humanisme le plus doux, la liberté la plus fière et qui illuminait le monde, s'est éteint.
L'entourage de Himmler est jaloux de Kersten. On insinue qu'il est un agent secret, un espion, mais la reconnaissance de Himmler pour son docteur est totale et sans limite.
Himmler livre, lors des massages, des confidences incroyables. Par exemple, Hitler l'a chargé de la rédaction d'une nouvelle Bible, la Bible de la Grande Allemagne nazie. De son côté, Kersten reçoit de Hollande des nouvelles épouvantables qui témoignent de l'oppression d'un envahisseur sans merci.
C'est un véritable dilemme. Kersten avait à soigner, à soulager un homme responsable du malheur de milliers ou de millions d'êtres.
Ne plus s'occuper de lui ? Faire semblant de le traiter ? Son éthique professionnelle le lui interdit et Kersten ressent un trouble et un malaise profond. En août 1940, Rosberg lui demande un service, faire libérer un de ses employés capturés par les SS. Comment faire ? Himmler insiste auprès de Kersten pour lui payer des honoraires. Kersten refuse mais demande la liberté de cet homme à la place. Himmler, stupéfait, accepte. Kersten avait arraché une première existence à Himmler. À partir de là, Kersten va négocier ses massages contre des vies humaines.
Au courant de la situation désespérée en Hollande, où arrestations, tortures, exécutions sommaires se succèdent, Kersten dit à ses amis « Je crois avoir une certaine influence sur Himmler. Envoyez-moi des lettres pour m'informer. »
Et il donne l'adresse du secteur postal militaire numéro 35360. C'est le numéro de Himmler lui-même. Kersten fait croire à Himmler qu'il reçoit du courrier de nombreuses conquêtes féminines. Himmler trouva très amusant que son docteur reçût des lettres d'amour et accepta sans se méfier.
Cette extraordinaire faveur permit à Kersten d'organiser un véritable réseau de renseignements.
Les lettres de Hollande commencèrent donc à arriver au seul numéro inviolable de toute l'Allemagne. Dans la liste atroce, Kersten choisissait les cas les plus pathétiques et pendant le traitement en parlait à Himmler. Il faisait appel à la vanité de Himmler aussi. On parlera de vous comme du grand chef de la race allemande, à l'égal des anciens chevaliers. Ils ne devaient pas leur gloire à leur seule force et courage, mais aussi à leur générosité. Il vous faut être comme eux, magnanime.
Et Himmler faisait établir une liste de noms désignés par Kersten et signait l'arrêté libérateur.
En janvier 1941, Kersten reçoit la visite de la Gestapo qui lui reproche de soigner des Juifs. Il ne cède pas, déclarant qu'en tant que citoyen finlandais, il a le droit de soigner tout le monde. Son ascendant sur Himmler le met à l'abri des malveillances, en particulier de l'hostilité ouverte de Heydrich. Sa faveur auprès de Himmler imposait silence.
Alors, Himmler évoque un nouveau projet démentiel du Führer. La déportation massive du peuple hollandais en Pologne.
C'est une vision de cauchemar pour Kersten. Des milliers d'hommes avançant vers les terres glacées de l'Est, affamés en lambeaux, trempés de pluie, mordus par le vent. Là, c'est autre chose que d'obtenir quelques grâces isolées. Il s'agit d'arrêter un décret du maître du Troisième Reich.
Kersten cherche à convaincre Himmler par tous les moyens. La prière amicale, la menace de graves conséquences sur la santé de Himmler, l'appel à la reconnaissance du malade, la flatterie, etc. Il a tout essayé.
Il se bat contre l'influence de Hitler, le dieu de Himmler. Le temps passe et il se produit un phénomène étrange. Le traitement de Kersten cesse d'agir sur Himmler. « Faites quelque chose! Je n'en peux plus !» criait Himmler, tordu, ravagé par la souffrance. Pourtant, Himmler résistait toujours. « Je ne peux pas, c'est un ordre du Führer !» Kersten lui dit « Mais reportez cette histoire hollandaise à plus tard et vous irez mieux. Dites à Hitler que vous ne pouvez pas faire face à toutes les missions dont il vous charge à la fois. »«
Vous n'avez qu'à lui dire manque de bateaux ?» Encombrement des routes, travail surhumain, en plus de vos autres fonctions.
Himmler consent finalement à parler à Hitler. Et aussitôt, les mains de Kersten retrouvent leur pouvoir. La douleur s'en va. C'est que vous avez pris la décision de parler à Hitler. Dépêchez-vous. Himmler se fit conduire chez Hitler, puis téléphona à Kersten. Le Führer est aussi magnanime que génial. La déportation est remise.
Voilà, nous sommes en 1941. Hitler se jette à la conquête de la Russie, mais un hiver précoce et d'une terrible rigueur arrête les armées allemandes.
À l'ouest, l'Angleterre tenait bon. L'intervention de l'Amérique approchait. Voici ce que dit Himmler à Kersten. « Le Führer m'a ordonné de liquider tous les Juifs, des millions d'êtres innocents traqués, parqués, tués en masse. Hitler devenait fou furieux et exigeait des fleuves de sang. »
Et Himmler, ce demi-fou, obéissait, en aveugle, au fou. En déployant son énergie et ses talents au service d'un massacre gigantesque, d'un holocauste que Himmler offrait à son idole.
C'est exactement ça. Et Kersten ne pouvait rien contre l'assassinat collectif. Mais son devoir était de sauver des individus chaque fois qu'il le pourrait. Les témoins de Jéhovah, quoique peu nombreux, étaient aussi la cible de Hitler. Kersten en réclame à Himmler pour les employer dans sa propriété. Ils arrivent décharnés, couverts de plaies, zébrés de coups, et se jetèrent sur le pain, le travail et la Bible avec une ardeur mystique.
Voilà, nous sommes en été 1942. Les blindés allemands poussent des pointes jusqu'à la Volga et approchent de Stalingrad.
Mais les troupes du Troisième Reich se brisèrent vague après vague contre Stalingrad. Et depuis novembre 1942, les Alliés s'étaient installés en Afrique du Nord. Kersten apprend alors que Hitler est atteint de paralysie syphilitique, un terrible secret d'État. Les perspectives de cette maladie sont redoutables. Le jugement est atteint et entraîne des illusions délirantes. Il dit à Himmler « Le Führer est un malade qui doit abdiquer dans l'intérêt de la nation ». Mais impossible pour Himmler de reconnaître ce fait.
Kerstin tient son journal au jour le jour. On peut y lire, par exemple...
Et obtenu aujourd'hui la grâce pour 42 Hollandais condamnés à mort. Aujourd'hui, Himmler souffrait beaucoup et était très faible. Il était prêt à accepter tout ce que je lui demandais. Et réussit à tirer hier des camps de concentration 12 personnes.
Le 18 mai 1943, Himmler, qui se trouve à Berchtesgaden, le fameux nid d'aigle de Hitler, oui. Appelle Kerstin de toute urgence. Il souffre terriblement et lui demande de le rejoindre au plus vite, à bord de son avion personnel, un Junker.
L'avion est pris en chasse par l'aviation anglaise et se pose en catastrophe. Kerstin a la vie sauve, au grand soulagement de Himmler, violemment ému. On peut dire que Kerstin vivait dans les entrailles même de la pieuvre qui étouffait presque toute l'Europe. Il est contacté, fin 1943, pour arracher à Himmler, et cette fois à plus grande échelle, des milliers de déportés pour les amener en Suède et être pris en charge par la Croix-Rouge.
Mais la difficulté est extrême pour Kerstin. La Gestapo redoublait de sévérité et de férocité.
Kerstin a le soutien de quelques-uns qui ne supportent plus la folie de Hitler. Mais il a un ennemi juré, le grand chef de la Gestapo, Kaltenbrunner, un fanatique des supplices et des exécutions. Il y avait parfois des scènes surréalistes, comme une fois lorsque, le 5 février 1944, Kerstin est assis à côté de Himmler dans l'avion personnel de Himmler, et devant eux, il y avait deux valises. Dans celle de Himmler, les papiers de la Gestapo, dans celle de Kerstin, le courrier de la résistance hollandaise, impitoyablement traqué par cette même Gestapo.
Ça pourrait presque être risible si ce n'était pas aussi tragique, n'est-ce pas ? Alors, sur le ceinturon de Himmler est gravée cette devise. « Ma fidélité est mon honneur ».
C'est beau, certes.
Très joli.
Mais Kerstin fait remarquer à Himmler, la fidélité n'est plus la fidélité quand elle passe au service d'un fou. Le laisser libre et souverain est votre plus grande faute. L'histoire la retiendra contre vous. Himmler se refusait à la discussion. « Je vais exterminer tous les ennemis du Führer. » Kerstin lui répond « Il vous faudra tuer 90% de votre peuple. » L'attentat contre Hitler le 20 juillet 1944 renforce encore la fidélité fanatique de Himmler. Éperonné par la peur et la rage démente de son maître qui voulait voir fumer partout le sang des sacrifices.
Le 1er août 1944, Kerstin échappe à une tentative d'assassinat de Kaltenbrunner. C'était un guet-apens minutieusement préparé pourtant.
Encore une fois violemment ému, Himmler se porte garant de sa sécurité. Himmler a à la fois un pouvoir immense et le besoin absolu des soins de Kerstin. L'assassinat manqué ne fit que renforcer la reconnaissance et l'amitié de Himmler pour Kerstin. Parce qu'il avait failli le perdre, son docteur miraculeux lui devint encore plus indispensable et plus cher.
En été 1944, la Suisse fait savoir à Kerstin qu'elle est prête à recueillir 20 000 juifs si on réussit à les tirer des camps de concentration.
La situation en Allemagne est devenue désespérée. Chaque jour, Kerstin revient à la charge auprès de Himmler pour le salut de ces hommes qui agonisent dans les camps. C'est un bras de fer. Himmler ne se laisse pas convaincre. Mais Kerstin obtient finalement le 8 décembre 1944 la libération de 3 000 femmes enfermées à Ravensbrück. La libération de 2000 à 3000 juifs, c'est le maximum qu'accepte Himmler, qui voit cela comme un témoignage spécial de gratitude envers son bon docteur.
Quelques semaines plus tard, en février 1945, Himmler apprend que 2700 juifs internés à Theresienstadt doivent être dirigés vers les chambres à gaz.
2700, dit Himmler. Juste de quoi satisfaire une lubie de mon cher docteur. 2700 personnes qui traversèrent toute l'Allemagne en direction de la Suisse. Les SS les font descendre du train, mais au lieu de se jeter sur ces victimes trébuchantes, hommes, femmes, enfants, les SS présentent les armes aux gardes à vous, les font traverser la frontière suisse, où ils sont accueillis par les infirmières de la Croix-Rouge avec des sourires et des larmes de bienvenue.
C'est aussi en février 1945 que Kerstin rencontre à Stockholm le représentant du Congrès juif mondial. C'est une course contre la montre, car les Allemands acculés s'apprêtent à faire sauter les camps de concentration.
Au terme d'une semaine d'efforts, 800 000 captifs furent arrachés à une mort certaine. Le 12 mars 1945, Himmler, en présence de Kersten, rédige de sa main un contrat au nom de l'humanité, précisant que les camps de concentration ne seraient pas dynamités et qu'on n'exécuterait plus un seul juif.
Sous le contrat, Himmler puis Kersten apposèrent leur signature.
Kersten arracha une dernière concession à Himmler. Il obtint que 5000 juifs des camps soient compris dans le convoi libérateur de la Croix-Rouge suédoise et que Himmler reçoive en personne le délégué du Congrès mondial juif. Norbert Masur, envoyé de ce congrès, rencontra Himmler en présence de Kersten le 19 avril 1945. Cette rencontre improbable se passa sous les bombardements de l'aviation alliée dans Berlin dévasté.
6 millions de morts séparaient Masur et Himmler, qui se trouvaient face à face.
Tant de cités, de villages, de lieux où s'étaient déroulées les mêmes étapes du supplice, étoiles jaunes mises à l'écart, rafles atroces, convois, tortures, chambres à gaz, fours crématoires.
Et oui, le 21 avril, soit 2 jours après cette rencontre, Himmler quitte Berlin en disant à Kersten, je vous remercie pour tout et ayez pitié de moi.
Himmler monta dans la voiture et Kersten ne le revit pas. Cet homme, qui avait ordonné sans hésiter tant d'exécutions et de massacres, savait s'attendrir sur lui-même. Le même jour, Kersten partit en Suède rejoindre sa famille. Hitler se suicida 8 jours plus tard, le 30 avril, et Himmler 1 mois plus tard, le 23 mai 1945.
Kersten va s'installer en Suède après la guerre et connaît quelques défaveurs pour avoir entretenu des relations avec les pires assassins nazis.
Des Hollandais qu'il a sauvés intercèdent en sa faveur. Une commission spéciale est chargée d'une enquête et après avoir entendu des dizaines de témoins et compulsé des milliers de documents, elle démontre que Kersten a sauvé des milliers de vies.
Il est décoré par les Pays-Bas, grand officier de l'ordre Orange-Nassau et son nom est même proposé pour le prix Nobel de la paix.
Il meurt d'une crise cardiaque le 16 avril 1960. La France le décore de la Légion d'honneur à titre posthume en novembre 1960. Notre personnage insolite d'aujourd'hui a inspiré plusieurs ouvrages, films, documentaires et même bandes dessinées, et en particulier un livre de Joseph Kessel, « Les mains du miracle ». Oscar Schindler, dont vous avez peut-être vu le film « La liste de Schindler » de Steven Spielberg, a sauvé 1100 vies. On estime que Félix Kersten en a sauvé environ 100 000.
Voilà, merci Christine de nous avoir fait découvrir ce personnage insolite qu'il faudrait connaître.
Merci Elisabeth et l'hymne à la joie pour la paix retrouvée.
Merci.
Après la guerre.
À bientôt pour une prochaine émission « Personnage insolite ».